Bonjour Philippe de Ruder.
Bonjour Yves-Michel.
Alors vous êtes de passage dans les Hautes-Alpes, vous êtes un de nos auteurs fidèles, vous avez écrit plusieurs livres. Et là, le plus récent, c'est une monnaie nationale complémentaire. C'est une proposition pour relever les défis humains et écologiques de notre société. Quelle est l'idée? Pourquoi une monnaie complémentaire? Après tout, on a l'euro, non?
On a l'euro, on voit ce que ça donne en ce moment. L'idée de ce livre nous est venue à André Jacques et moi au spectacle du monde actuel où on voit que la tendance est à la politique d'austérité. Ah, voilà, on demande à tout le monde de serrer la ceinture. Les peuples doivent payer maintenant pour remercier les banques d'avoir joué au casino et avoir utilisé l'argent autrement que pour enrichir les peuples. Et donc, c'est surtout pour montrer qu'il y a une autre voie que celle qui est prise actuellement, que ce soit aux États-Unis ou en Europe.
D'ailleurs, quand les États ont créé l'euro, il était question d'avoir l'euro comme monnaie commune en plus des monnaies nationales. On aurait pu garder les monnaies nationales, puis ça a été abandonné.
Oui, ça a été abandonné, partant du principe qu'une monnaie unique pourrait nous protéger de la spéculation. On voit le résultat, hein. Au contraire, il y a un déchaînement de spéculation sur les pays de l'Union européenne. Mais je crois que c'était une erreur à l'origine. Enfin, il y avait un choix à faire. Si on faisait le choix de la monnaie unique, il fallait également faire le choix de la solidarité et de la coopération, et non pas le choix de la compétition. Avoir une monnaie unique dans un ensemble où il y a une grande disparité de contenu économique au sein des nations, et de faire vivre ces nations en se basant sur la compétition, ne pouvait que conduire à une catastrophe. Et on est en train de vivre bien la conséquence de ce choix.
Et puis, une question de base, c'est qui émet la monnaie et quel contrôle démocratique on a dessus? Et justement, ce livre vient faire une proposition sur ce sujet.
Bon, la question de la création monétaire et de la dette, on l'a déjà explorée avec André Jacques dans un livre plus spécifique, publié toujours dans la même maison, hein, la dette publique est une affaire rentable, parce qu'effectivement, la Banque centrale européenne est indépendante de tous les du gouvernement de tout l'État. Donc les peuples n'ont aucun contrôle, aucun mandat sur la politique monétaire de l'Union européenne. Et de plus, la monnaie est créée par le système bancaire en dehors de tout contrôle citoyen. Et donc tout ça nous échappe complètement. Et là, l'idée dans ce nouveau livre, c'est de montrer qu'aujourd'hui, le défi de l'humanité est bien au-delà de la simple production de richesses marchandes. La richesse telle qu'elle est conçue aujourd'hui, c'est la richesse marchande. Or aujourd'hui, on voit bien que les crises humaines et les crises écologiques nous conduisent à vouloir nous intéresser au qualitatif beaucoup plus qu'au quantitatif. Or le qualitatif, il n'y a pas de marché pour l'acheter, ou du moins, qui pourrait le faire? Donc l'idée est justement de s'inspirer, d'utiliser l'outil de la création monétaire, mais récupéré par la puissance publique pour financer toutes sortes d'activités non marchandes, mais tout à fait bénéfiques à l'être humain,
Alors
réconcilié avec la
lesquelles
planète.
par exemple? Quelles
Mais,
activités
il y aura évidemment les activités qui permettraient de transformer la société pour aller vers un meilleur respect de tout notre environnement. Alors ça peut aller depuis nettoyer les rivières, entretenir nos forêts ou replanter, créer des haies, enfin bref, tout l'aspect écologique. La transformation et la mutation des transports, transport des marchandises, transport des personnes, utilisation de transformation de nos l'utilisation de l'énergie. Enfin, on connaît toutes ces questions qui sont à l'ordre du jour, mais qui nécessitent
l'éducation.
l'ouverture de champs. Un, une réflexion et des débats publics qui ne soient pas faussés, et deux, dès l'ouverture de chantiers dont les coûts seront certainement très, très importants. Donc s'il faut sortir à tout prix de l'argent qu'il faut emprunter aux plus riches sur la planète pour libérer cette monnaie et pouvoir se donner les moyens d'ouvrir ces chantiers.
L'éducation notamment.
L'éducation,
Ouais.
bien sûr, l'accompagnement des personnes âgées ou personnes qui ont soit en mauvaise santé, soit en difficulté. Il y a tout un aspect humain, tout un aspect écologique, tout un aspect créatif, véritablement, pour retisser du lien social, se réconcilier avec la nature et faire de notre monde un monde pérenne et juste et équitable pour tous. Or, aujourd'hui, on est exactement à l'opposé, on est dans la fracture, on est dans la rupture, on est dans le conflit, on est dans la paupérisation des uns pour enrichir quelques autres.
Et alors, comment elle serait émise et distribuée, cette autre monnaie, cette monnaie nationale complémentaire à l'euro?
Alors là, on est dans un schéma qui est complètement inverse à celui que l'on connaît aujourd'hui, quand en fin de compte, aujourd'hui, on regarde d'abord de quel budget on dispose, et puis en fonction du budget, ben, on regarde ce qu'on peut faire avec. Alors que là, ça renverrait, et ce serait la question tout à fait essentielle et pleine d'espoir, à aborder les choses au travers de l'exercice de la démocratie participative. C'est-à-dire que là, il faut se poser des questions de fond, et le débat public ne devrait porter que là-dessus. Qu'est-ce que l'on veut? Donc là, c'est à partir du local et un peu par principe de subsidiarité qu'il faudrait développer, enfin, discuter et se mettre d'accord sur des projets qui seraient ensuite confiés à ce qu'on appelle dans le livre des entreprises à mandat sociétal, qui seraient des entreprises conduites par des personnes privées, mais dont le capital serait apporté par la collectivité, par création monétaire d'État. Donc l'État, j'aurais juste le rôle de chef d'orchestre là-dedans. On organiserait l'émission de la monnaie. Alors, est-ce que ce serait la Banque de France ou un organisme public? Peu importe. Il faut qu'il y ait un organisme public qui, lorsque les projets sont ficelés et ont été évalués, émettrait la monnaie en fonction de la somme nécessaire. La monnaie, là, dans ce cas-là, devient juste l'accompagnement, l'outil qui permet la finalisation des projets, mais donc non limité. Puisque ce qui limite un projet aujourd'hui, ou ce qui devrait limiter un projet, c'est beaucoup plus l'empreinte écologique et la capacité technologique humaine à réaliser ce projet. Si on a un projet, si on a la volonté de le faire aboutir, si on a les ressources humaines, si on a les connaissances, la technologie, les ressources naturelles, rien, absolument rien ne s'oppose à le mener à bien si effectivement on a récupéré le pouvoir de la création monétaire. Comme en ce qui concerne l'euro et les monnaies nationales pour l'instant, nous n'avons pas ce pouvoir, eh bien l'idée serait d'avoir une autre monnaie, une deuxième monnaie qui fonctionnerait à l'intérieur du territoire, une monnaie locale, une monnaie nationale, mais exclusivement dédiée à l'amélioration de la qualité de la vie, donc à ce qu'on appelle le bénéfice sociétal.
Et est-ce qu'elle porterait des intérêts, par exemple, cette monnaie?
Ah non, 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 elle porterait peut-être plutôt un intérêt négatif. Enfin, ce n'est pas une monnaie qui a vocation de thésaurisation, ce n'est pas une monnaie qui serait convertible non plus. Elle a vraiment vocation à être uniquement une monnaie d'échange et une monnaie pour permettre la facilitation et la résolution des projets qui seraient décidés. Mais on n'est plus du tout dans le même cadre de la monnaie. Réserve de valeur, monnaie spéculative ou même devise étrangère. Là, c'est une monnaie qui circulerait exclusivement à l'intérieur du territoire, mais qui aurait cours forcé, donc tous les commerçants auraient obligation d'accepter et l'euro et cette monnaie complémentaire.
Donc ça permettrait de créer plein de choses et de pourvoir aux besoins essentiels des citoyens,
Ah
pour
ben
une fois.
absolument. Là, au moins, on pourrait laisser libre cours à la créativité. On ne serait plus freiné par la raréfaction organisée de la monnaie. Là, le mur de la monnaie serait complètement évacué et l'essentiel du débat porterait sur qu'est-ce que l'on veut véritablement mettre en œuvre pour améliorer la qualité de vie, non seulement à l'intérieur de nos frontières, mais que ce soit modélisable, bien évidemment, à l'extérieur, car le but n'est pas de s'enfermer dans un nationalisme frileux, mais de montrer l'exemple. Et ça, évidemment, si on pouvait montrer l'exemple à ce niveau, eh bien, ça pourrait être un beau tremplin pour l'Europe et pour le reste des pays du monde, et en particulier les plus pauvres.
Et alors, donc ça, c'est une monnaie nationale, mais il y a aussi des monnaies locales. Aujourd'hui, il y a l'éclosion d'un certain nombre de projets locaux, que ce soit l'abeille ou l'autre. Il y a un parallèle à faire, comment vous
Alors
voyez les choses? C'est complémentaire?
oui, il y a un parallèle, parce que, bon, évidemment, on n'est pas assez naïf actuellement pour croire que un gouvernement va s'emparer de cette idée. Pourquoi pas? Après tout, restons optimistes. Mais pour le moment, on est tout sauf dans cette ligne. Donc avant qu'un gouvernement ou qu'un parti politique ne s'en empare, il se passera peut-être encore un peu de temps. Alors, malgré tout, on peut descendre les échelons de l'échelle, quitte à ne pas pouvoir attaquer les choses par le haut, commençons-les par le bas. Et donc, il y a quand même tout un mouvement citoyen qui émerge dans le monde actuellement, avec plus de 5 000 expériences de monnaie complémentaire. Mais là, local, là, on parle de quartiers dans des villes, de petits villages, d'associations qui vont émettre une monnaie locale à chaque fois, c'est il y a une vocation sociale, une vocation écologique. Enfin, il y a beaucoup d'expériences dont les objectifs sont différents, mais à chaque fois, il y a toujours une prise en charge par la société, par le citoyen à la base, qui veut exprimer, donner du sens à la monnaie, très souvent relocaliser l'économie, retisser du lien social, dynamiser le tissu économique local. Donc, dans tous les cas, contrebalancer la folie de la finance actuelle en remettant à la portée de l'individu là où il se trouve cet outil de la monnaie pour le réhabiliter, pour lui donner du sens et construire les bases de quelque chose de plus pérenne et de plus enthousiasmant pour l'avenir. Donc c'est une école, c'est une...
Oui, c'est des modèles pédagogiques. Et d'ailleurs, vous avez rapporté des exemples historiques qui ont existé en France même dans un de vos précédents
Oui,
livres.
alors là, j'ai voulu, intérieur du livre, rendre la création monétaire à la société civile, narrer une bonne dizaine d'expériences qui ont été menées au lendemain de la première grande crise mondiale, car les monnaies complémentaires ont réapparu
À
chez
cette
nous
époque.
à cette époque-là. Et donc, j'ai voulu montrer toute la pertinence et toutes ces monnaies, en plein cœur de la première grande crise, ont remporté un très grand succès et ont permis à des villages ou à des personnes de pouvoir s'en sortir très rapidement, en plein cœur de la crise. Donc, c'était important de montrer la pertinence de ces monnaies. Alors aujourd'hui, bien sûr, on n'est plus à la même époque, on est plus de 60 ans plus tard, mais la question reste exactement la même. La monnaie va-t-elle servir les peuples ou va-t-elle les asservir? Pour l'instant, on est dans un système complètement d'asservissement, et donc il est heureux et souhaitable de voir qu'il y ait ce mouvement-là aujourd'hui qui est vaste. 5 000 expériences, c'est très peu au regard de l'économie mondiale. Mais c'est un mouvement social et citoyen très important et des monnaies se créent tous les jours. Je vois rien qu'en France tout l'intérêt et la curiosité qu'il y a autour de cette question actuellement.
Et alors, il y a un autre livre que vous avez écrit, Les Aventuriers de l'Abondance, qui est le premier livre qu'on a publié ensemble, qu'on a réédité l'an dernier dans sa deuxième édition, que vous avez complètement réécrit. Alors là, c'est un format un peu différent, c'est un peu romancé, c'est une histoire.
Oui, j'ai voulu écrire un livre romancé pour le rendre plus accessible à toutes sortes de personnes qui abordent, ou du moins qui fuient plutôt l'économie et l'argent parce qu'elles partent du principe que c'est trop compliqué et qu'on n'y comprend rien. Donc là, j'ai voulu mettre les choses vraiment à la portée de monsieur et madame tout le monde, que ce soit vivant, que ce soit parlant. Donc c'est à l'intérieur d'une histoire et d'une histoire qui leur survole toute la question, à mon avis, qui est au cœur du défi humain aujourd'hui, qui est effectivement de changer nos systèmes pour rentrer dans une économie respectueuse de l'homme et de la planète, mais en abordant toute la question également de la transformation du mode de pensée, parce que si le système, tout système n'est que le reflet du mode de pensée qui l'a créé, qui l'a nourri, qui l'a généré au départ. Et si le système dysfonctionne aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une pensée complètement inappropriée. Donc, tout en décrivant le système au niveau d'un petit village, dans ce roman, et donc au travers d'une histoire de nos héros, on va plonger dans les modes de pensée qui génèrent les dysfonctionnements ou qui pourraient demain véritablement créer des conditions de vie beaucoup plus heureuses pour tous.
Oui, je trouve le parallèle que vous faites entre la conscience qu'on a de l'abondance ou de la précarité et puis le monde qu'on manifeste autour de nous très 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 parlant. J'aime bien ce livre.
Et puis en plus, le terme abondance est certain un terme ambigu, car on a souvent tendance à l'associer à l'avoir, alors qu'en fait, on découvrira dans ce livre qu'on parle de l'être, donc de notre façon de voir le monde, de voir l'autre, de considérer la vie. Et donc, c'est une reliance avec la vie. Et donc, pour moi, c'est la grande question aujourd'hui. On est coupé de la vie et il faut se réconcilier et se relier avec la vie.
Eh bien, ce sera une belle conclusion. Et donc, j'invite tous nos lecteurs et nos lectrices, parce que l'économie n'est pas réservée qu'aux hommes, loin de là, à retrouver vos livres sur le blog des éditions, yvesmichel.org. Et puis, Philippe, vous êtes très souvent en conférence, vous consacrez votre temps aujourd'hui à faire de la recherche et de la formation. Presque un soir par semaine ou deux, vous donnez des conférences dans toute la France, au Québec, partout.
Absolument, j'habite au Québec aujourd'hui, mais je viens 2 fois par an en France, au mois mai-juin et octobre-novembre. Et pendant ces 2 fois 2 mois, je circule, je prends mon bâton de pèlerin et puis je vais là où on m'appelle proposer, donner des conférences et des ateliers sur cette question qui est tout à fait au cœur du défi humain aujourd'hui.
Eh bien, merci bien et
Merci.
à bientôt.
Au revoir.